Réforme explosive, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Camille et nos invités sont là pour en parler. Bonjour Clément Carbonnier.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur responsable de l'axe de recherche économie politique et institutions au sein de l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Et Nathalie Annette également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Nathalie Annette, est-ce que vous redoutez, vous aussi, comme la plupart des syndicats, les conséquences de cette nouvelle réforme envisagée ?
Évidemment, puisque on considère que le déficit public et le budget de l'État va s'arranger en diminuant l'accompagnement et l'indemnisation des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, que sont les chômeurs. C'est quand même déjà sur le principe assez étonnant comme raisonnement. Et de façon très concrète, nous, les 2000 bénévoles qui accompagnent 4000 personnes par an, notre témoignage constant et notre constat permanent, c'est que les personnes cherchent véritablement un emploi. Alors, la preuve, il y a 2,5 millions de personnes indemnisées pour plus de 6 millions de chômeurs. Donc, de toute façon, diminuer l'indemnisation aura un impact que sur cette population-là. Et ça n'aura pas un impact immédiat sur l'économie de la France.
Donc on aura
au contraire des gens qui vont se retrouver dans des situations de paupérisation.
Ouais, vous dites qu'il n'y a pas un intérêt aujourd'hui à rester au chômage, en clair.
Ah, il n'y a aucun intérêt à rester au chômage. Aucun intérêt à rester au chômage. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'encore une fois, ce chiffre, il n'y a que 2,5 millions de personnes indemnisées pour 6 millions de chômeurs ou dans le halo du chômage. Si c'était le seul sujet de l'indemnisation, les 3 ou 4 millions supplémentaires ne seraient pas dans cette situation-là et travailleraient.
Est-ce que vous partagez ce constat en tant qu'économiste, Clément Carbonnier? En clair, pas besoin de cette réforme pour inciter au retour à l'emploi?
Oui, je le partage assez. L'ensemble des études qui sont faites sur les incitations des demandeurs d'emploi montrent en fait que, en gros, quand on leur coupe, quand on détériore leur assurance chômage et donc leur situation en période de chômage, c'est pas du tout l'effort, comme on peut entendre dire, c'est l'effort pour chercher du travail qui est modifié, c'est leur prétention. Et donc, quand ça a de l'effet, on voit pas toujours un effet. Quand ça a de l'effet, c'est pas de l'effet en augmentant l'effort de recherche, qui est toujours là, mais en baissant les prétentions. Et donc, ça conduit plutôt à des formes de précarisation dans le travail, des contrats plus courts qui sont pénalisants pour les demandeurs d'emploi et nouveaux travailleurs eux-mêmes, parce que ça crée des cycles de retour de petits contrats et de retour au chômage. Et c'est pénalisant aussi pour l'économie, parce que cette succession de petits contrats ne permet pas d'avoir une bonne productivité globalement des entreprises à travers des travailleurs qui augmentent leur qualification et qui augmentent leur capacité à contribuer à l'intérieur des entreprises.
Mais alors d'où vient cette idée, c'est notamment celle du gouvernement, selon laquelle les règles actuelles de l'assurance chômage seraient trop généreuses aujourd'hui?
Le point, moi je pense qu'il faut le regarder plus globalement dans l'ensemble des réformes récentes et même plus anciennes qui ont de la protection sociale et du travail. Et il y a une dimension qui vise à baisser le coût du travail. Et donc, moi l'impression que j'ai, c'est plus dans cette grande perspective de baisse du coût du travail, un levier de plus, d'une certaine manière, en diminuant le rapport de force du côté des travailleurs, en diminuant le pouvoir de négociation des travailleurs. Et donc, moi, je le vois plutôt de cette manière-là, si vous voulez.
Ouais. Nathalie Allais, quelle est l'inquiétude aujourd'hui concrète au sein des demandeurs d'emploi? Est-ce que c'est le fait de se retrouver sans aucune indemnisation, de passer peut-être dans le système du RSA qui conduirait, vous l'avez évoqué, à une paupérisation de ces personnes?
Oui. Concrètement, ce qu'on observe, c'est que les personnes au chômage et qui restent un peu au chômage, sans parler des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire au-delà d'un an, culpabilisent d'être au chômage. Et une des premières choses qu'elles font quand nos binômes de bénévoles les rencontrent, c'est de poser les valises et de dire combien c'est difficile, combien elles se sentent coupables, combien elles se sentent pas bien vis-à-vis de leur entourage personnel parce qu'elles sont pas à niveau, etc., etc. Et donc la pression qui est exercée sur elle en disant c'est de votre faute si vous êtes au chômage et quand vous aurez plus d'indemnité, vous allez reprendre un emploi, c'est les pousser, comme le disait
Clément Carbonnier,
pardonnez-moi, c'est les conduire à prendre des emplois moins qualifiés, qui exigent moins d'expérience. Donc là aussi, à une forme de renoncement. Et après, quand on est dans ces situations où l'indemnisation chômage s'arrête et ce qui malgré tout ne permet pas de retrouver un emploi, on a des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations personnelles extrêmement compliquées parce que il peut y avoir évidemment un delta important entre l'indemnisation chômage et le RSA. Et d'ailleurs, peut-être, si vous permettez, un témoignage d'une des personnes qu'on accompagne qui disait « mais le chômage, c'est la perte d'utilité sociale ». C'est le sentiment d'être un boulot pour la société et le regard des gens est tellement insupportable. Mmh. C'est ça qu'il faut entendre. Et c'est pas en mettant ces personnes-là dans des situations plus précaires encore, en diminuant leurs ressources ou en accélérant la période, ou en raccourcissant la période pendant laquelle elles sont indemnisées, qu'elles vont retrouver mécaniquement un travail. On ne devient pas qualifié pour les métiers du soin et de l'accompagnement. Au seul motif qu'on n'a plus d'indemnisation. Ça exige des qualifications et des formations qui durent 6 mois, 1 an, 3 ans.
Et on va continuer à en parler dans une minute, si vous le voulez bien. Restez avec nous, un passage par le Fil Info d'abord, midi 21 sur France Info. C'est Virginie Lebrun.
L'accès au hameau du Haut-Vernay a été barré à la circulation. Il est aussi interdit de survol. Près de 9 mois après la disparition d'Émile, 2 ans et demi, la justice organise aujourd'hui une mise en situation du moment où l'enfant a été aperçu pour la dernière fois. Elle réunit 17 personnes, familles, voisins, témoins visuels. Une carte spéciale pour les familles monoparentales, c'est ce que propose aujourd'hui la délégation aux droits des femmes du Sénat pour mieux soutenir les parents qui élèvent seuls leur enfant. Une carte qui ouvrirait des avantages, des tarifs préférentiels sur la cantine scolaire, les transports publics ou encore les loisirs. Une famille sur 4 en France est monoparentale avec une femme à sa tête dans 82% des cas. Le Premier ministre Gabriel Attal et plusieurs ministres ont détaillé ce matin le plan de transformation écologique de l'État, une feuille de route constituée de 15 engagements en faveur de la transition écologique. Gabriel Attal s'est notamment félicité face à la facture d'électricité et de gaz des bâtiments de l'État. Elle a baissé de 150 millions d'euros entre 2022 et 2023, selon lui. Des trains sont supprimés, des lignes SNCF suspendues en Normandie, notamment le temps de la dépression Nelson. 6 départements de la façade ouest sont en vigilance orange pour vent violent. Une mini-tornade a touché hier une 60aine de maisons sur l'Île-Dieu en Vendée, une rafale à 183 km/h a été enregistrée à la pointe du Raz dans le Finistère ce matin. Enfin, un nouveau succès pour le Téléthon dédié à la lutte contre les maladies génétiques. Il a collecté plus de 92 900 000 euros. Ce sont 12 millions de plus que les promesses de dons enregistrées en décembre et la meilleure collecte depuis 2015.
Et on poursuit notre discussion sur la réforme envisagée par Gabriel Attal, diminuer la durée d'indemnisation de l'assurance chômage. Elle passerait de 18 à 12 mois. Clément Carbonnier, vous qui êtes économiste, on a compris votre scepticisme sur l'efficacité de cette mesure pour améliorer le retour à l'emploi. Sur quel levier, du coup, faudrait-il agir, selon vous ?
Alors, Il y a plusieurs leviers potentiels. Il y a des leviers à long terme, et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué à mettre en place parce que d'un point de vue politique, on peut se dire qu'on met en place des leviers pour les successeurs. Donc ça, c'est tout ce qui est la formation à la fois continue et initiale. Et puis, je pense qu'il y a tout un pan sur les conditions de travail parce que on parle de secteurs en tension, on parle de secteurs qui ont du mal à recruter. Et quand on regarde dans ces secteurs-là, il y a une part de manque de qualification, c'est-à-dire que la main-d'œuvre formée pour ces métiers n'existe pas. Donc là, on revient dans le premier point de la formation. Et puis, il y a aussi toute une part où on a des conditions particulièrement pénibles qui font qu'on a du mal à recruter. Et donc, je pense que dans ces cadres-là, avoir des réflexions pour améliorer les conditions de travail, et là, le point important, c'est de les améliorer au niveau du secteur. C'est-à-dire que si on continue à avoir des entreprises qui, à l'intérieur du secteur, se font concurrence les unes aux autres, elles n'osent pas améliorer les conditions de travail parce qu'elles se disent « si moi j'améliore les conditions de travail, l'autre en face qui va mal payer ses salariés va me prendre mon marché ». Et donc c'est au niveau du secteur qu'il faut penser, au niveau de ces secteurs en tension, qu'il faut penser l'amélioration des conditions de travail pour que la concurrence entre entreprises ne se fasse pas sur ces conditions de travail et que l'ensemble des entreprises puissent finalement améliorer leur capacité à trouver des salariés.
Je vous pose la même question, Nathalie Hanné. Vous dites pas touche aux règles d'indemnisation des chômeurs en tant que présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Qu'est-ce que vous préconisez de faire, vous ?
Alors, ma préconisation sera largement en écho de celle de Clément Carbonnier. C'est-à-dire que la première chose, c'est de maintenir et développer les compétences, et en particulier des salariés dans leur deuxième partie de carrière. Puisque ce qu'on constate, et notamment dans les secteurs où les conditions de travail sont pénibles, c'est qu'on a aussi des gens qui se brisent au travail et qui terminent leur vie professionnelle en inaptitude. Donc les former, les préparer à faire d'autres métiers pour éviter ces situations d'inaptitude d'une part, d'autre part pour qu'ils conservent des compétences et qu'ils restent employables et pertinents sur le marché du travail, ce sont des puissants leviers pour éviter le chômage et éviter surtout les licenciements de ces personnes. Donc avant de sanctionner les chômeurs, il serait certainement plus intéressant, et c'est l'intérêt de cette négociation que les partenaires sociaux, dont les partenaires sociaux viennent de différer un peu la fin en reportant au 8 avril le résultat de leurs travaux, c'est bien de comment on pense le marché du travail pour qu'on garde les seniors, on actualise leurs compétences et qu'on évite et qu'on dissuade les employeurs de les licencier, puisqu'on sait que ces personnes-là restent le plus longtemps et sont les plus en difficulté, ouais, pour retrouver un emploi.
Seniors qui sont d'ailleurs indemnisés plus longtemps, mais ça aussi, ça pourrait changer dans les prochains mois. On parlait des seniors. Clément Carbonnier, je voudrais qu'on s'intéresse aussi aux jeunes. Est-ce que ce n'est pas eux, finalement, qui seraient les premiers touchés par une nouvelle réforme de l'assurance chômage ?
Alors là, je dirais que les nouvelles réformes, ça dépend de ces paramètres, d'une certaine manière. Tous les demandeurs d'emploi potentiels peuvent être touchés selon les paramètres qui seront choisis. Là, j'ai pas fait de simulation et puis pas les paramètres. Donc, je peux difficilement vous... Mais potentiellement, ils font partie, effectivement, des personnes qui peuvent se retrouver à être demandeurs d'emploi, hein, au début, avant de rentrer sur le marché du travail de manière plus pérenne, et donc potentiellement, effectivement, être touchés. Mais pour avoir plus de détails, plus de détails.
On en aura dans les prochaines semaines. En 30 secondes, s'il vous plaît, Clément Carbonnier, est-ce que cette réforme peut permettre de faire des économies, parce que c'était aussi c'est aussi son but?
Alors, à court terme, potentiellement. Après, il faut voir à quel point, en fait, il faut mesurer les reports sur d'autres types de prestations sociales. C'est-à-dire qu'effectivement, si on arrête de payer l'allocation chômage à des gens, mais qu'il n'y a pas les emplois en face, en fait, le seul résultat, ce sera qu'on aura plus d'allocations sociales. Ouais. Donc là, il faut faire le delta, d'une certaine manière, entre les deux. Potentiellement, oui, à court terme. Maintenant, est-ce que c'est important ou pas? Je ne sais pas. Et à long terme, ça peut avoir, justement, par ces effets de déqualification, par ces retours au chômage après des emplois courts, ça peut avoir des contre-effets.
On en reparlera bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux, Clément Carbonnier, économiste au sein notamment de l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Et merci à vous, Nathalie Hanné, présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage.